Europe 1, il est midi.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Bonjour à tous, bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. À la une, des missiles de croisière russes qui volaient vers Kiev, abattus par l'Ukraine ce matin. Le conflit s'intensifie avec le Kremlin qui considère que l'envoi de chars lourds en Ukraine est un engagement direct des Occidentaux dans le conflit. Avec quelles conséquences ? Louis Dragnel dans le journal, avec qui on reviendra également sur cette demande des Ukrainiens de recevoir, en plus des chars lourds, des avions de chasse et des missiles. Et puis on sera ensuite avec le général Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandeur suprême de l'OTAN. Et avec vous, bien sûr, au 39-21, la situation vous inquiète-t-elle ? La France doit-elle envoyer des chars et des avions ? Vous appelez le 39-21. Une attaque islamiste, cette nuit, dans deux églises dans le sud de l'Espagne. Bilan, un mort, un sacristain et un prêtre gravement blessé. L'assaillant était armé d'une machette. Il est marocain, il a 25 ans, il a été interpellé. Nos informations dans Europe Midi et l'expertise, après midi et demi, de Claude Moniquet. L'explosion des demandes d'asile en France. Plus de 150 000 demandes rien que l'année dernière. Le détail avec Jacques Seret. Les services publics sont difficilement joignables par téléphone. C'est le résultat d'une enquête de 60 millions de consommateurs. Comment fait-on quand on ne peut pas joindre un service public par téléphone et qu'on n'est pas à l'aise avec Internet? On sera dans Europe Midi avec un représentant de 60 millions de consommateurs et avec vous, bien sûr, au 39-21. La météo avec vous, Anissa Haddadi. Et bonjour Anissa.
Bonjour Romain.
Quelques flocons cet après-midi. Hein.
Oui, alors ça va être très léger, hein, je vous rassure. On attend 1 à 5 cm de neige près des reliefs. Quelques sols pourraient blanchir en plaine, surtout sur le grand quart nord-est et près des Pyrénées. Au bord de la Méditerranée, là c'est une toute autre ambiance. Grand soleil avec des températures douces et bien froides d'ailleurs.
Merci Anissa et à tout de suite pour la météo complète.
Europe 1.
Nous considérons cela comme un engagement direct dans le conflit. Nous considérons cela comme un engagement direct dans le conflit. La réaction très explicite du Kremlin aux livraisons par les Occidentaux de chars lourds en Ukraine. Voilà pour les déclarations. Mais sur le terrain, les représailles de la Russie sont bien réelles. Caroline Baudry, une salve de missiles s'est abattue sur plusieurs régions de l'Ukraine ce matin.
Oui, 30 projectiles russes ont visé le pays ce matin, affirme le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne. 15 missiles ont été tirés sur Kiev, tous abattus par la défense antiaérienne. Un homme de 55 ans a été tué. Deux autres personnes sont blessées, selon le maire de la ville. L'alerte aérienne est déclenchée dans tout le pays. Les habitants sont appelés à rester à l'abri. Des coupures d'électricité d'urgence ont été déclenchées ce matin dans la capitale et dans trois autres régions. C'est une mesure de précaution pour éviter des dommages importants sur les transformateurs et les centrales électriques visées par les forces russes depuis le mois d'octobre. Dans la région d'Odessa, dans le sud du pays, deux sites énergétiques ont été endommagés ce matin. 24 drones de fabrication iranienne lancés par la Russie ont été abattus selon les forces ukrainiennes la nuit dernière. La dernière vague de bombardements massifs sur l'Ukraine remontait au 14 janvier.
Merci beaucoup Caroline Baudry. Voilà les représailles russes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky en demande encore plus aux Occidentaux. Il demande des missiles de longue portée et des avions de combat. Et ce, alors qu'on vient de le voir, le porte-parole du Kremlin dit que l'envoi de chars est déjà considéré par la partie russe comme un engagement direct dans le conflit. L'Allemagne s'engage déjà à livrer 14 chars Léopard d'ici à la fin mars, début avril. Pas de calendrier pour l'instant pour les livraisons de 31 chars Abrams américains. Et désormais, tous les regards sont tournés vers la France et ces chars Leclerc. Louis Dragnel avec nous. Bonjour Louis.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
L'armée française peut-elle envoyer son char d'assaut phare, le Leclerc, pour combattre les Russes?
Alors techniquement, oui, évidemment, c'est possible, mais la réticence de la France, en tout cas pour le moment, s'explique par la volonté de préserver le petit stock de chars Leclerc en dotation dans les armées. On en compte 202 pour éviter d'affaiblir les capacités françaises dans une guerre où l'on sait par définition que le matériel envoyé en Ukraine ne reviendra pas. À noter également, et ce n'est pas un détail, l'entreprise Nexter ne produit plus de Leclerc depuis 2008 et il faudra attendre 2040 pour voir les premières livraisons de son successeur. Ensuite, comme l'explique ce général avec qui nous avons échangé, on ne va pas livrer des Charles Leclerc sous la pression des Américains et des Allemands. D'ailleurs, le message de l'Élysée est clair. La France se félicite de la décision allemande qui amplifie le soutien que nous avions engagé avec la livraison des AMX 10RC, des chars à roues, une trentaine est en cours de livraison à l'Ukraine. Cela signifie explicitement que pour le moment, Emmanuel Macron ne compte pas aller au-delà. On reste les premiers à avoir donné des chars, rappelle un conseiller du président. Enfin, comme le confie ce haut gradé, Emmanuel Macron sait que les demandes de Volodymyr Zelensky n'ont pas de limite. Une crainte confirmée ce matin, puisque désormais, vous l'avez dit, désormais l'Ukraine demande à la France des rafales et des pilotes d'avions de chasse. Une demande presque impossible à satisfaire, puisqu'elle signerait une véritable entrée de la France dans le conflit.
Merci beaucoup Louis Dragnel. Voilà, et j'ajoute que la chef de la diplomatie française, la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna, est arrivée ce matin à Odessa, dans le sud-ouest de l'Ukraine, au bord de la mer Noire, pour une visite destinée à, je cite, afficher le soutien de la France à l'Ukraine à l'approche du premier anniversaire de l'invasion du pays par la Russie. Elle a tweeté ce mot à Odessa pour marquer le soutien de la France à la souveraineté de l'Ukraine aujourd'hui. Comme hier, donc, a tweeté Catherine Colonna qui se trouve à Odessa depuis ce matin. Restez bien avec nous sur Europe 1 et dans Europe Midi. Dans un instant, on sera avec le général Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandeur suprême de l'OTAN et avec vous au 39-21. L'Espagne sous le choc au lendemain de l'attaque perpétrée dans deux églises à Algésiras, dans le sud du pays. C'est juste à côté de Gibraltar, pointe sud de l'Espagne. Un sacristain est mort, un prêtre est grièvement blessé. Le principal suspect a été arrêté dans la foulée. Il est toujours entendu par la police espagnole. Bonjour Simon Bourtin-Bohr.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
On en sait un petit peu plus sur son profil.
Oui, selon une source policière, il s'agit d'un homme, un Marocain de 25 ans, qui, vous le disiez, est toujours en garde à vue en ce moment. Le gouvernement espagnol indique que le suspect était en instance d'expulsion parce qu'en situation irrégulière dans le pays depuis le mois de juin. Une enquête pour des faits présumés de terrorisme a été ouverte. Écoutez le maire d'Algésiras à ce sujet.
Si c'est confirmé que c'est un acte terroriste, moi je demanderai à ce que l'on convoque un conseil de sécurité. J'ai besoin que le ministère de l'Intérieur me donne plus d'informations et il faut que le ministère de l'Intérieur s'occupe plus de ce qu'il se passe sur notre territoire en nous mettant à disposition plus de forces de l'ordre.
Le maire qui a décrété un jour de deuil ce jeudi parce que l'émotion est grande à Algésiras où deux églises ont été attaquées par cet homme muni d'une machette. Sur une vidéo, on le voit déambuler, arme à la main dans les rues de la ville. Dans une première église, d'abord, il blesse au cou un prêtre qui est actuellement hospitalisé. 150 mètres plus loin, l'homme s'attaque ensuite à un sacristain qu'il tue. Un rassemblement commence en ce moment à Algésiras devant les églises endeuillées.
Merci beaucoup Simon Bourtin-Bohr. Voilà, et on sera avec Claude Moniquet, spécialiste du terrorisme et du renseignement, aux alentours de midi et demi. C'est un sujet qui revient régulièrement dans les débats, bien sûr, l'immigration. Les différents camps politiques se déchirent régulièrement sur ce thème et à quelques jours de la présentation au Conseil des ministres de la prochaine loi sur l'immigration, en tout cas du projet de loi, la Direction générale des étrangers en France vient de publier son bilan 2022. Jacques serait avec nous. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Vous avez consulté ce bilan pour Europe 1. On apprend tout d'abord qu'il n'y a jamais eu autant de demandes d'asile sur notre territoire.
Oui, pour l'année 2022, il y en a eu précisément 156 103, c'est un record, c'est 28% de plus qu'en 2021. Par rapport à 2019, qui sert d'année de référence d'avant Covid-19, c'est plus 3%. À l'échelle européenne, ce sont près d'1 million de demandes d'asile qui ont été effectuées en 2022. La pression migratoire ne faiblit pas. En France, le premier pays de provenance des demandeurs d'asile reste pour la 5e année consécutive l'Afghanistan, suivi du Bangladesh, de la Turquie, de la Géorgie et de la République démocratique du Congo. La grande majorité, environ 60% de ces demandes d'asile, ont été refusées par l'État français, ce qui ne les empêche pas, avec le droit français qui est peu appliqué, de rester avec une OQTF sans particulièrement être inquiété sur le territoire national. Emmanuel Macron s'était pourtant engagé à résoudre ce problème. Force est de constater qu'il s'aggrave, avec une difficulté toujours prégnante dans la gestion de ces flux. Nombre de ces étrangers qui demandent leur titre en France sont passés par un autre pays européen durant leur périple et auraient dû voir leur dossier traité en amont. À noter que les procédures d'éloignement ont augmenté, plus 15% par rapport à 2021, mais il reste inférieur au niveau d'avant la crise Covid.
Jacques Serret, merci Jacques. La réforme des retraites et cette prise de parole de Marine Le Pen ce matin dans le Pas-de-Calais, elle s'est dite persuadée que la réforme ne passerait pas. Et pour cela, il faut faire, selon elle, pression sur les députés, les Républicains. Écoutez.
Je pense que c'est pas joué. Je pense que le vote de cette loi n'est pas joué. Voilà, je le dis. Je pense qu'il reste encore un certain nombre de jours où, à mon sens, les électeurs LR doivent faire maintenant pression directement sur leurs députés pour leur expliquer qu'il n'est pas possible de soutenir une réforme qui est une réforme, encore une fois, profondément injuste, d'une brutalité inouïe, profondément antisociale.
Marine Le Pen, voilà, qui a pris la parole, qui est allée à la rencontre des électeurs dans le Pas-de-Calais ce matin. Il est midi 10. Restez bien avec nous dans un instant. Je vous parle des Flying Doctors. Oui, oui, les docteurs volants. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Les docteurs volants, les Flying Doctors, ce nom a tout d'un divertissement pour enfants, mais c'est pourtant très, très sérieux. Il s'agit d'une opération mise en place pour lutter contre les déserts médicaux. Des médecins envoyés en avion d'un département français à un autre afin de pallier le manque de personnel médicaux. Nina Droff avec nous. Bonjour Nina.
Bonjour.
Le tout premier vol de cette opération Flying Doctors a eu lieu ce matin.
Oui, 8 médecins ont décollé depuis l'aéroport de Dijon pour rallier celui de Nevers dans la Nièvre. Ces Flying Doctors sont médecins généralistes, cancérologues ou encore pneumologues et vont désormais venir une fois par semaine en avion pour travailler à l'hôpital de Nevers, un établissement où il manque une cinquantaine de médecins et au moins 35 infirmières. Pour Philippe Cordier, adjoint à la santé à la mairie de Nevers, ce pont aérien est une solution pragmatique.
Les médecins veulent bien renforcer les équipes de notre hôpital, mais ils jugent les temps de trajet entre Dijon et Nevers trop longs. Et l'avion garantit un aller-retour en 1h10 contre 5 à 6 heures par le train ou en voiture. Les médecins que nous accueillons volent littéralement au secours de nos concitoyens qui subissent la désertification médicale. À cette situation d'urgence, solution d'urgence.
La liaison aérienne a cependant vocation à être temporaire, le temps que l'hôpital de Nevers parvienne à recruter davantage de personnel. En attendant, l'opération suscite tout de même de nombreuses critiques, notamment des élus écologistes de Nevers qui rappellent qu'un trajet en avion émet 1500 fois plus de gaz à effet de serre qu'un trajet en train.
Merci beaucoup Nina Droff, service société d'Europe 1. Merci Nina. Si le numérique n'est pas votre tasse de thé, vous préférez sûrement joindre les différents services publics par téléphone, si vous en avez besoin, bien sûr. Si c'est votre cas, vous le savez déjà, c'est un véritable parcours du combattant. Ça l'est souvent, en tout cas, une attente interminable au standard, une musique qui met vos nerfs à rude épreuve quand on ne vous raccroche pas tout bonnement à la figure. Vous voyez bien sûr de quoi je parle. Ces manquements sont dénoncés aujourd'hui dans une étude de 60 millions de consommateurs. Delphine Schiltz avec nous. Bonjour Delphine.
Bonjour.
Les dysfonctionnements sont nombreux.
Oui, et pour s'en rendre compte, les enquêteurs ont passé plusieurs coups de fil, 1500 appels aux différents services. La mauvaise élève, c'est l'assurance maladie. Sur 300 appels passés, les trois quarts n'ont pas abouti. À la caisse d'allocation familiale, 52% des appels sont restés sans réponse. Alors vous aurez plus de chance si vous essayez de joindre Pôle emploi, 84% de réussite, ou la caisse d'assurance retraite, 72%. Mais quand ça décroche, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Lionel Moguin est co-auteur de l'enquête.
Trop souvent, on n'a pas tous les éléments qui répondent à la demande, que ce soit à Pôle emploi, l'assurance maladie, l'assurance retraite ou à la caisse d'allocation familiale. Il n'y a pas toujours toutes les informations qu'on aimerait à une demande quand même assez simple au départ.
Et prenons un exemple d'actualité, l'âge de départ à la retraite. Une fois sur deux, la réponse est floue.
Merci beaucoup Delphine Schiltz. Et on sera dans un instant d'ailleurs avec Lionel Moguin qu'on vient d'entendre. Il sera à 12h50 avec nous. On va détailler encore un petit peu plus cette enquête. Et puis on va entendre vos témoignages, j'espère. 39-21, il y a déjà François qui nous a appelé de Normandie qui va témoigner sur cette difficulté à joindre les services publics par téléphone. Merci beaucoup Delphine. Allez, la bourse. Didier Hamot de boursier.com. Bonjour Didier.
Bonjour Romain.
Qu'est-ce que ça donne à part Paris, Didier.
Ça se passe bien, comme d'habitude, on est tenté de le dire, en ce début d'année, plus 0,6%, alors on n'est pas loin des 7000 points, 7090 points, le marché est quand même au plus haut depuis un an. L'ambiance est assez calme avant les réunions des banques centrales la semaine prochaine, il y a du monde au portillon, comme on dit, la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre sont attendues la semaine prochaine. Le marché attend aussi les premiers résultats 2022 des grandes entreprises, à commencer par ceux de LVMH. Ce sera ce soir. Ailleurs, c'est calme aussi. Francfort plus 0,2%, Bruxelles plus 0,1%. Le CAC 40 en hausse quand même, 0,6% de mieux, 7090 points.
Didier Hamot de Boursier.com, merci Didier. À demain, la météo, Anissa Dadi, avec un temps un petit peu plus agité aujourd'hui, Anissa.
Bah, c'est vrai qu'on était habitué au temps calme avec l'anticyclone qui nous a protégés. On avait beaucoup de gris, mais c'était calme. Bah là, l'anticyclone a laissé une petite porte ouverte à une perturbation. Elle est très légère, elle est de faible intensité, mais elle apporte des pluies aujourd'hui, des pluies faibles entre les Ardennes et les Pays de la Loire. Des pluies qui parfois peuvent être verglaçantes, attention les sols sont froids, et qui sont porteuses de quelques flocons. Donc les sols vont blanchir encore cet après-midi entre le Grand Est et l'Auvergne. Et puis dans le sud-ouest, près des massifs pyrénéens, du côté de la Montagne Noire, on attend jusqu'à 5 cm. Et ça va continuer comme ça tout au long de la journée. On a deux zones agréables aujourd'hui. L'arrière de la perturbation sur les côtes de la Manche, entre la Bretagne et les Hauts-de-France, et à l'avant de la perturbation, où là, au bord de la Méditerranée, c'est du grand et beau soleil, mais avec du vent fort. Attention, on a quand même 80 à 100 km/h pour le Mistral et la Tramontane. Les températures cet après-midi, elles sont assez stationnaires. 1 degré à Saint-Étienne, 3 pour Aurillac, 5 degrés à Carcassonne et Bordeaux, 6 à Paris, 9 à Brest, et il fait toujours très doux dans le sud, avec 12 degrés à Bastia et 14 à Nice.
Anissa Dadi, merci Anissa. Il est midi 17, restez bien avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec le général Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandeur suprême de l'OTAN. On va parler de la situation en Ukraine qui s'intensifie. Certains parlent d'escalade, de tournant dans le conflit. L'Ukraine qui réclame désormais des missiles et des avions. Après ces demandes de chars lourds qui vont être envoyés d'ailleurs par les Occidentaux, on en a beaucoup parlé. Restez bien avec nous sur Europe 1, à tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Il est midi 21, bonjour général Paloméros.
Bonjour.
Bonjour mon général, merci d'être en direct avec nous dans Europe Midi. Je le répète, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandeur suprême de l'OTAN. J'aimerais tout d'abord, mon général, vous entendre sur cette déclaration du porte-parole de la présidence russe, Dimitri Peskov, ce matin. On en a parlé à l'instant dans le journal. Le Kremlin a dénoncé, je cite, l'engagement direct des Occidentaux dans le conflit en Ukraine après l'annonce de la livraison de dizaines de chars européens et américains à Kiev. Qu'est-ce que ça dit, cette déclaration du porte-parole du Kremlin ? Il sait ce qu'il dit, il pèse ses mots, il parle d'engagement direct.
On ne pouvait pas attendre du Kremlin qui reste bouche bée en attendant la livraison de Charlot. C'est pas une très bonne nouvelle pour eux. Ils utilisent leur rhétorique habituelle, mais ça n'a rien changé. On a envoyé de l'artillerie de très haut niveau. On envoie à peu près tous les types d'armements dont les Ukrainiens ont besoin. Là, c'est une étape supplémentaire. Voilà, il faut prendre ça à la hauteur de la campagne d'information qui est menée par le Kremlin depuis le début de cette guerre.
Oui. Si nous sommes considérés par les Russes comme engagés directement dans le conflit, qu'est-ce que ça change ?
On est engagé dans le conflit, oui, dans la mesure où on a décidé de soutenir l'Ukraine depuis le départ en fournissant des équipements. Donc ça, c'est, au moins cette position-là, elle est claire. Maintenant, toute la question est de savoir de quels équipements les Ukrainiens ont besoin, à quel moment, le plus vite possible, bien sûr, pour maintenir leur souveraineté et, si possible, regagner leur souveraineté territoriale. Et il se trouve que les Ukrainiens sont un peu dans le dur, parce que ça fait un an que cette guerre dure, pratiquement, et que, évidemment, leur force s'épuise, et c'est compréhensible.
Leur force s'épuise. Qui domine actuellement le conflit ? Actuellement, ce sont plutôt... où est la dynamique ? Du côté de l'armée russe ou du côté de l'armée ukrainienne ?
Alors, il y a une forme d'équilibre. Il y a peut-être une dynamique un peu plus forte du côté russe parce qu'il y a le nombre. C'est le nombre. Ils ont formé de nombreux conscrits. Ces conscrits, maintenant, ils commencent à être aguerris. Donc, c'est quand même une force d'appoint qui est importante. Et les Ukrainiens, ils souffrent. Donc, ils ont du mal à maintenir le tempo. Et on a bien vu, ils se sont arrêtés. Ils ont regagné une part de leur territoire. Mais visiblement, et c'est une question pour les stratèges ukrainiens, c'est de savoir s'ils engagent plus de réserves ou non maintenant. Si j'étais eux, j'essaierais d'attendre encore un peu, surtout avec l'appui de ces nouveaux chars lourds qui considéreront quand même une force de pénétration importante.
Oui. Bon, général, la qualité de notre liaison n'est pas exceptionnelle, et même mauvaise, on peut le dire. Ce que je vous propose, on va raccrocher, on va vous rappeler... pour augmenter la qualité de notre technique, j'allais dire, de notre échange. On est en ligne avec Jean-Claude, qui nous appelle du Cher, qui est retraité. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour. Bonjour, Robin.
Merci d'être avec nous. Si on envoie du matériel qui sert de défense, c'est-à-dire qui sert à repousser l'ennemi, je suis d'accord, vous nous dites. En revanche, si ce matériel est livré dans le cadre d'une offensive ukrainienne sur le sol russe, je crains que les Russes considèrent les Européens comme des agresseurs. Hein, c'est ça.
Exactement. Ouais. Exactement.
Et du coup.
Oui, c'est ce que je pense. Ouais. Hein. Et bon, on a déjà envoyé quand même, nous, déjà au départ, des blindés légers.
Oui.
Et j'entendais tout à l'heure qu'on a en réserve 200 chars Leclerc.
Oui.
Et on n'en fabrique plus, on va en avoir des nouveaux en 2040. Moi, je suppose que malheureusement, on ne sait jamais, c'est toujours la der, mais avec 200 chars, on n'irait pas loin si on était attaqué. Hein.
Alors effectivement, si on envoie des chars Leclerc, on réduit notre capacité de défense.
Oui. Bien sûr. Et d'un autre côté, si on envoie et que ces chars-là, enfin que ce soit Leclerc ou les autres, hein, européens, rentrent sur le sol russe, ils peuvent considérer que c'est une attaque, disons, de l'Europe contre eux.
Oui.
Hein. Et qu'est-ce qui va se passer dans la tête de Poutine, on ne le sait pas. Hein. Donc ils ont l'air de dire que, bon, est-ce que l'arme nucléaire ne tournerait pas autour de ça aussi C'est pour ça que je dis, tant que c'est pour, disons, la défense, que l'Ukraine reprenne ses, disons, ses frontières,
oui.
Je suis tout à fait d'accord. Les autres, ils ne peuvent pas dire que c'est une attaque, c'est de la défense. Du moment où, s'ils sont bien lotis en armement et continuent d'enfoncer les troupes et puis qu'ils rentrent en Russie, qu'est-ce qui peut se passer? Personne ne peut le dire hein, pour l'instant.
Hein. Ouais. Général Paloméros, vous êtes à nouveau avec nous. Vous entendez Jean-Claude qui dit... Oui, on peut envoyer des chars. Bon, ouais. Il n'est pas question d'avions pour le moment. On va parler des avions après. Ouais. Mais voilà, pour défendre le territoire ukrainien, en revanche, qu'ils ne s'en servent pas pour attaquer la Russie. On n'a aucune garantie quand on envoie des chars comme ça sur leur utilisation. Si ?
Une garantie au sens formel du terme, non, mais il y a la garantie d'une alliance, si vous voulez. Il y a une alliance entre les pays occidentaux et M. Zelensky qui sait très bien jusqu'où il peut aller. Et son but, lui, c'est de regagner sa souveraineté. Bien sûr, il y a eu quelques attaques, mais très ponctuelles, pour montrer que c'était possible d'aller frapper le cœur de la Russie, mais certainement pas des attaques terrestres. L'Ukraine n'est pas en guerre contre l'Ukraine est en guerre contre la Russie dans la mesure où elle fait la guerre chez elle. Oui. Elle n'est pas en guerre en Russie. C'est tout à fait différent. Et moi, je crois que les pays occidentaux ont toute confiance dans le président Zelensky et dans ses chefs militaires pour faire respecter leur territorialité, leur souveraineté territoriale. Un point, c'est tout.
Oui.
Personne n'en veut, ni l'OTAN ni l'Ukraine n'en veulent aux frontières russes telles qu'elles sont établies par le droit international.
Il est midi 27. Général Paloméros, mon général, restez bien avec nous. On fait une petite pause publicitaire, le flash, et on se retrouve juste après. À tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Il est midi et demi, merci d'être avec nous dans Europe Midi. On parle de l'intensification de la guerre en Ukraine. On est avec le général Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandeur suprême de l'OTAN. Avec vous, au 39-21 également. Mais tout d'abord le flash avec Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Bonjour Romain, bonjour à tous. La France affiche son soutien à l'Ukraine, visée par une nouvelle salve de missiles russes. Une cinquantaine de projectiles tirés à travers tout le pays. À Kiev, ces tirs ont fait un mort et deux blessés. Deux sites énergétiques ont été touchés à Odessa, où se trouve justement Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères. Volodymyr Zelensky réclame des avions et des missiles longue portée. Hier, l'Allemagne et les États-Unis ont annoncé l'envoi de chars lourds. Le Kremlin dénonce l'engagement direct de l'Occident dans le conflit en Ukraine. Les électriciens, les raffineurs et les dockers sont en grève. 48 heures de mobilisation contre la réforme des retraites. Des baisses de production dans les centrales sont à prévoir. Des actions positives aussi, comme la gratuité de l'énergie, des réductions de tarifs ou le rétablissement du courant pour les ménages coupés. L'auteur présumé de l'attaque à la machette en Espagne était en instance d'expulsion. Le Marocain de 25 ans, accusé d'avoir tué un sacristain et blessé un prêtre, n'avait pas d'antécédent. Une enquête pour terrorisme a été ouverte. 10 milliards d'euros, c'est le coût des catastrophes naturelles en France l'année dernière, selon France Assureur, un record depuis 1999, lié notamment à l'intensification des phénomènes climatiques climatique extrême et à une augmentation de leur fréquence. Et puis la France qualifiée pour la demi-finale du mondial de handball après avoir battu l'Allemagne hier, les Bleus qui affronteront la Suède demain à 21h, Europe 1 et radio officielle du tournoi.
Merci Émilie, Émilie Dez, qu'on retrouve dans une demi-heure à 13h. À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Europe Midi.
Romain Desarbres. On parle évidemment de la guerre en Ukraine avec ces toutes dernières informations. Le Kremlin qui parle d'engagement direct, qui dénonce l'engagement direct, je reprends les termes du Kremlin, des Occidentaux dans le conflit en Ukraine après l'annonce de la livraison de dizaines de chars européens et américains à Kiev. Les Russes disent que en envoyant des chars en Ukraine, c'est comme un engagement des Occidentaux dans ce conflit. On est avec le général Paloméros. Mon général, les Ukrainiens ont demandé des chars. Ils ont obtenu des chars, plusieurs dizaines. Bon, ils vont arriver dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent. Désormais, Volodymyr Zelensky n'a pas attendu beaucoup. Hein. Il a pris la parole hier soir. Et il y a le ministre ukrainien de la Défense dans le Figaro ce matin qui demande également des avions et des missiles aux Occidentaux. Déjà, pourquoi faire ? Une question toute simple. Pourquoi est-ce que l'Ukraine a besoin d'avions ?
Si vous voulez, la puissance aérienne dans tous les conflits modernes est un élément essentiel justement de la victoire. Et c'est vrai que depuis le début du conflit, on sent la faiblesse en quelque sorte de l'armée de l'air ukrainienne, quelle que soit la qualité de ses pilotes et leur valeur, hein, c'est pas le sujet.
Oui.
Ils sont pas. Alors, dans un premier temps, les pays de l'Est ont pu fournir quelques avions pour compléter, mais on ne reconstruit pas une armée de l'air comme ça du jour au lendemain, vous imaginez. Donc, toute la question est là, c'est est-ce que l'Ukraine va pouvoir regagner sa souveraineté territoriale ? Et elle veut qu'elle soit la plus vaste possible, c'est-à-dire revenir aux frontières légitimes et internationalement reconnues, sans ces moyens-là. Alors, la question la plus urgente porte, à mon avis, sur les missiles de longue portée.
Oui.
Parce que ça, pour l'instant, et c'est les Américains qui possèdent ça, quelques centaines de kilomètres. Ça permettrait effectivement aux Ukrainiens de frapper les Russes dans la profondeur en Ukraine, c'est-à-dire aux frontières dans le Donbass, peut-être en Crimée aussi, ça c'est un sujet. Et ça, là, pour l'instant, oui. Le président Biden n'a pas voulu franchir ce cap. C'est un cap qui est plus important que la fourniture de chars lourds, à mon avis. Parce que ça, c'est des moyens qui peuvent atteindre la Russie et faire mal.
Ouais.
Donc, je crois que les Occidentaux vont rester assez prudents là-dessus, me semble-t-il.
Général Paloméros, si les Ukrainiens frappent la Crimée ou frappent le territoire russe, est-ce que ce serait une escalade du conflit ? Est-ce que ce serait une nouvelle ligne rouge franchie ?
Le territoire russe, bon, à quelques exceptions près, mais c'était plutôt à titre démonstratif que pour mener vraiment une guerre, je pense que ce n'est pas leur intérêt et ils ne le feront pas. C'est une sorte de pacte aussi avec les Occidentaux. Si vous voulez, on vit une guerre très particulière où on a les Ukrainiens qui se battent pour leur liberté, qui se battent sur leur territoire pour recouvrir leur souveraineté, mais les équipements militaires, c'est nous qui leur fournissons. Donc il faut qu'en permanence, il y ait un dialogue qui existe entre ce que veulent les Ukrainiens, leur stratégie, et ce qu'on peut leur fournir. Et à un moment donné, dans ce dialogue, il y a des limites.
Oui.
Et ces limites, c'est particulier, ces missiles de longue portée, parce que peut-être que les Américains ne voient pas ce que M. Zelensky voudrait en faire. Par contre, les alimenter avec ce qu'on leur a fourni aujourd'hui, l'artillerie, leur fournir des munitions, c'est ça, me semble-t-il, l'urgence. Quant à l'aviation, si on veut reconstruire l'aviation ukrainienne, il faut s'y prendre maintenant, et ça va prendre des mois.
Oui. Chars, avions de chasse, missiles, est-ce que, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, mais est-ce qu'on joue avec le feu, là ? Si on envoie tout ça aux Ukrainiens, est-ce qu'on augmente le risque que la situation dégénère ?
Honnêtement, je ne le pense pas.
D'accord.
Parce que M. Poutine a mis sur la table tous les armements conventionnels possibles et inimaginables. En nombre, et donc il est dans une guerre totale. On est dans une guerre de haute intensité. Les Russes s'engagent dans une guerre de haute intensité. Donc, pour faire front, les Ukrainiens ont besoin de ce soutien. Voilà, maintenant, est-ce qu'un camp ou l'autre va l'emporter ? C'est ça la question. Il faut que les Ukrainiens résistent dans les semaines, dans les mois à venir. Je crois que l'essentiel, il est là. C'est qu'il n'y ait pas une percée sur un front. On pense au Donbass en particulier, qui est devenu vraiment la cible principale des Russes.
Oui. Clément nous appelle de région parisienne. Bonjour Clément.
Bonjour, voilà, en fait, je voulais intervenir parce qu'au-delà de l'aspect, disons, je dirais technique, et que le général, évidemment, est beaucoup plus compétent que tout le monde pour en parler, oui. Moi, je voulais parler d'un point de vue général et d'un point de vue politique. J'ai l'impression qu'on n'a pas envie de voir actuellement que Vladimir Poutine, en fait, que l'Ukraine, c'est notre bouclier. En fait, en leur fournissant des armes, c'est un peu maladroit peut-être de dire ça, mais en fait, on se les fournit à nous-mêmes. C'est-à-dire, en fait, on pose la ligne de front en Ukraine parce que de toute façon, on sait parfaitement que Vladimir Poutine ne veut pas s'arrêter en Ukraine. Il a envie de reconstituer l'Empire russe et il a envie, au-delà de ça, d'aller vers l'Estonie, d'aller vers la Lituanie. Et en fait, il ne va pas arrêter comme ça. Donc en fait, en donnant ses armes à l'Ukraine, on se protège à nous-mêmes.
Oui.
Et au-delà de ça, un dernier point, j'écoute souvent des émissions russes et des télévisions russes, des radios russes. Je vous assure que derrière Poutine, il y a bien pire que Poutine. En fait, Poutine, c'est devenu presque un modéré. C'est-à-dire qu'il y a derrière je parle pas de Wagner, mais également une autre force qui sont bien, bien plus ardues et qui ont des velléités bien plus grandes. Et il y a un phénomène antioxydant qui est absolument démoniaque. Et encore une fois, et après j'en finis là, n'oubliez pas quand même que Poutine est en train de s'allier avec les pires pays du monde qui existent actuellement, avec la Corée du Nord et l'Iran. Et voir derrière un peu la Chine. Donc ça veut dire quand même, il faut arrêter de faire l'autruche et de voir qu'on a vraiment une guerre actuellement qui est en train de se mener, qui est une guerre, on va dire, de deux mondes. Oui. Le monde de la liberté, de la démocratie et le monde de la dictature.
Si je vous suis, il ne faut rien lâcher en Ukraine et il faut envoyer des armements lourds aux Ukrainiens.
C'est une évidence dans la mesure où, encore une fois, au final, on se protège à nous-mêmes. Et on protège notre modèle.
Oui.
C'est très important.
Général Paloméros, je reprends l'expression de Clément. L'Ukraine, c'est notre bouclier ?
Oui, enfin, on peut dire ça comme ça, mais je pense que c'est surtout l'avant-garde de l'Europe libre et démocratique. C'est ce que veut dire monsieur, et je le comprends, et je soutiens tout à fait cette idée. En gros, on est en train de revoir la création d'une nouvelle... une nouvelle guerre froide, si vous voulez, moderne, et d'un rideau de fer. Et le tout est de savoir où va tomber ce rideau de fer. Oui. S'il tombe aux frontières de la Russie, ben, tant pis, les Russes n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes. S'il tombait en plein milieu de l'Ukraine ou au-delà, évidemment, ça serait très grave pour nous. Je reprends quand même un propos sur le risque que fait peser cette guerre sur les pays... on a parlé des pays baltes. Il y a quand même une grande différence, c'est que l'Ukraine aujourd'hui, malheureusement pour elle, n'appartient pas à l'Alliance Atlantique, n'appartient pas à l'OTAN. Les autres pays qui sont sortis du giron soviétique, eux, appartiennent à l'OTAN. Et ça fait une différence évidemment énorme. Aujourd'hui, si les pays de l'OTAN ne peuvent pas intervenir directement en Ukraine, c'est bien parce que l'Ukraine n'est pas liée par ce pacte atlantique qui existe depuis 1949.
Bon, général, je posais la question tout à l'heure à l'antenne, une question générale, et ça sera ma dernière question. Est-ce que vous êtes inquiet et est-ce que vous craignez que le conflit déborde de l'Ukraine ?
On va miser un peu sur la sagesse des uns et des autres, mais il n'y a pas de raison fondamentale que ce soit le cas. Pour les Ukrainiens, c'est clairement le regain de leur souveraineté et ils savent que c'est dans ce sens que les Occidentaux les soutiennent. Pour Vladimir Poutine, il a déjà assez de mal comme ça à essayer de gagner au moins cette guerre ou partie de la guerre pour ne pas élargir le conflit. Maintenant, autour de la Russie, la question se pose. Par exemple, vous avez, et je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvaise augure, mais le cas de la Géorgie est loin d'être clair, si vous voulez. On se souvient que la Géorgie avait été envahie. Donc, à la place de la Géorgie, en Transnistrie aussi, c'est pas simple. Enfin, il y a quand même des conflits qu'on a appelés des conflits gelés qui aujourd'hui pourraient être ranimés. Donc, le cas ukrainien peut malgré tout, à une certaine échelle, faire école, mais dans l'entourage proche de la Russie, certainement pas à l'Ouest.
Merci beaucoup, général Jean-Paul Paloméros. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous, de nous avoir apporté votre expertise, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et ancien commandeur suprême de l'OTAN. Et merci beaucoup à Jean-Claude qui nous a appelé du Cher et à Clément qui nous a appelé de région parisienne. On change de sujet.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Et on parle de ce qui s'est passé en Espagne la nuit dernière. On est avec Claude Moniquet. Bonjour Claude Moniquet.
Bonjour.
Spécialiste des questions de terrorisme et de renseignement, un sacristain a été assassiné par un Marocain de 25 ans. Ça s'est passé dans une église d'Algeciras, c'est à l'extrême sud de l'Espagne, juste en face du Maroc. Un prêtre est gravement blessé. L'homme était armé d'une machette. Il a 25 ans, hein, il a été interpellé. Que dire du profil de cet homme? Il était en instance d'expulsion.
Alors oui, c'est un homme qui apparemment n'était pas connu des services de renseignement, qui était présent en Espagne depuis, semble-t-il, 2014, mais qui s'était surtout fait remarquer par ses voisins par un comportement un peu bizarre, plus que par des activités extrémistes. Ce qu'on sait aussi, c'est que c'est quelqu'un qui, au cours, et ça a été démontré au cours de ces agressions, qui a commis ses actes avec un très très grand calme. C'est assez frappant, mais sur les photographies qui ont été diffusées par la police, on le voit menotté sur une chaise dans un commissariat. Il est effectivement très détendu et même souriant, comme si ce qu'il venait de commettre était tout à fait normal.
Oui, effectivement, ça frappe. Je me suis fait cette réflexion. Son visage semble serein.
Absolument, ouais. Absolument. Mmh. On a l'impression qu'on est en face de quelqu'un qui a rempli son devoir, qui a fait ce qu'il devait faire, et fondamentalement, c'est probablement ce qu'il pense.
Ouais. Il voulait convertir à l'islam des catholiques, hein, c'est ce qu'il a dit en rentrant dans les églises.
Absolument, et ça c'est très intéressant parce que c'est une chose à laquelle on n'est pas trop habitué depuis des années, mais qui est très présente dans l'historiographie djihadiste classique. En fait, avant d'attaquer les mécréants, les infidèles, donc ceux qui ne sont pas des croyants musulmans, les djihadistes doivent d'abord faire un appel à la conversion. Et ce n'est qu'après cet appel à la conversion, s'il n'a pas été suivi des faits, qu'ils peuvent attaquer leurs adversaires. Ouais. Donc on est en face de quelqu'un qui manifestement, soit qu'on lui ait dit, soit par ses lectures, par sa connaissance de l'histoire des mouvements islamistes, était au courant de cette tradition historique, ce qui est assez frappant.
Oui, oui. Donc le caractère terroriste, pardon, ne semble pas faire de doute. D'ailleurs, il y a une enquête pour terrorisme qui a été ouverte.
Absolument. Et d'ailleurs, cette enquête est confiée à des services de police régionale et spécialisés, mais elle est supervisée par l'Audience nationale, qui est un tribunal qui, comme son nom l'indique, a une compétence sur tout le territoire espagnol,
oui,
qui est à Madrid et qui intervient sur les questions de terrorisme, de sécurité nationale et de crime organisé. Donc oui, le caractère terroriste ne pose pas de questions. Ce qui pourrait poser question, bien sûr, c'est l'équilibre mental de l'individu.
Oui. Que dire de cette ville d'Algeciras, située juste en face du Maroc? En fait, je suis allé revoir la cartographie espagnole. En fait, Algeciras est en face de Gibraltar. Hein. C'est chacun d'un côté d'une baie. Hein. Chacun à l'extrémité d'une baie. Ouais.
Absolument très proche de Gibraltar. Et à une dizaine ou une douzaine de kilomètres peut-être de la côte marocaine qui fait vraiment face.
Oui.
C'est le point le plus extrême au sud de l'Espagne.
C'est un point de passage pour l'immigration illégale?
C'est un point de passage, comme toute cette région d'Andalousie autour de Gibraltar. C'est un point de passage effectivement pour l'immigration illégale venant d'Afrique du Nord. C'est aussi une zone qui est évidemment extrêmement patrouillée par la marine espagnole, mais aussi par d'autres marines de l'OTAN.
Oui. L'homme était en instance d'expulsion, là on le disait il y a quelques instants. L'Espagne expulse plus ses illégaux plus facilement que la France ou pas?
Alors l'Espagne effectivement a des conditions légales de séjour qui sont beaucoup plus restrictives que dans le reste de l'Europe, en tout cas qu'en France. Et c'est d'autant plus frappant que l'Espagne a fait un grand recours à la main-d'œuvre immigrée d'Afrique du Nord pour, entre autres, pour les vendanges, pour les travaux agricoles, oui, au printemps et en automne. Et puis après, les gens qui sont là, les travailleurs migrants, sont le plus souvent priés de retourner chez eux. Certains restent avec un statut légal et beaucoup, évidemment, essaient de rester avec un statut illégal, comme c'était apparemment le cas de cet homme.
Claude Moniquet, spécialiste des questions de terrorisme, spécialiste des questions de renseignement. Merci beaucoup Claude. Merci Claude Moniquet d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Il est 12h47, on va changer totalement de sujet, on va parler des services publics. Vous savez, quand on veut appeler un service public par téléphone, ça répond rarement. Il y a une étude qui a été réalisée par 60 millions de consommateurs. On en parle dans un instant avec Lionel Mauguin de 60 millions et avec vous au 3921, bien sûr. À tout de suite.
Europe Midi.
Romain Desarbres.
Il est 12h50. Écoutez bien, on va parler d'une étude de 60 millions de consommateurs sur le taux de réponse des appels téléphoniques au service public. Qui ne s'est jamais arraché les cheveux en appelant un service tout court, même privé, et quand c'est le service public, parfois c'est beaucoup plus compliqué. On est avec Lionel Mauguin. Bonjour Lionel Mauguin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, journaliste à 60 millions de consommateurs et co-auteur de cette enquête. Alors déjà, comment est-ce que vous avez travaillé et pourquoi vous êtes-vous penché sur le taux de réponse des appels téléphoniques au service public ?
C'est une enquête qu'on avait déjà faite en 2016 avec le Défenseur des droits, déjà à l'époque.
Oui.
Et on s'était rendu compte que, alors qu'on n'était pas au niveau de dématérialisation qu'on a aujourd'hui, il y avait pas mal de gens qui ne parvenaient pas à contacter leur administration par téléphone. Donc on a réitéré cette enquête cette année en espérant qu'il y ait des progrès. En réalité, c'est pire encore peut-être aujourd'hui.
Alors le bonnet d'âne revient à la Sécu, hein, à l'assurance maladie. 60% de non-réponse.
Plus que ça, hein, presque trois quarts, 72%.
J'ai dit quoi
alors, pour... 60.
Ah d'accord, oui, je disais 60, mais je lisais 72. 72% de taux de non-réponse, hein, oui.
Donc, alors pour nous, une non-réponse, c'est quand même trois appels. Un appel non abouti, on attend 5 minutes, on rappelle. Deuxième, donc 72% de vraiment où ça ne décrochera jamais, quoi.
Oui.
Et donc, il faut avoir vraiment beaucoup de réussite pour avoir quelqu'un en assurance maladie. On demandait en l'occurrence... des renseignements pour refaire une carte vitale.
Oui.
Et donc, les gens qui n'ont pas Internet, qui ont du mal à faire cette formalité en ligne, comment font-ils ? C'est le désarroi et ça peut aller jusqu'à des personnes qui renoncent à leurs droits.
Oui, ils doivent se déplacer. Voilà. Alors, Pôle emploi et la Caisse d'assurance retraite, c'est un petit peu mieux.
Alors, Pôle emploi, c'est quand même beaucoup mieux, même par rapport à 2016.
Oui.
On a quelqu'un au bout du fil quand on appelle.
Oui.
Ensuite, la demande qu'on faisait, c'est comment on peut toucher une indemnisation chômage après un CDD de 6 mois. Et on a reçu des réponses correctes, parfois incomplètes. Mais enfin, en tout cas, c'était assez satisfaisant.
Oui.
L'assurance retraite, la demande, c'est à quel âge puis-je partir en retraite. C'est une demande un peu d'actualité. Oui. Là encore, il y a eu pas mal de décrochages, mais la plupart des agents n'ont pas été en mesure de donner cette information, ce qui était un peu surprenant. Mauvais élève, c'est la CAF et l'assurance maladie et Pôle emploi qui est en net progrès.
François nous appelle de Deauville, retraité à Deauville. Bonjour François.
Oui, bonjour.
Il vous est déjà arrivé de telles mésaventures ?
Tout le monde. Vous n'avez même pas besoin de me poser la question qu'à moi. Mais c'est un scandale, parce qu'en 80, on embauchait 1 million de fonctionnaires en plus. Et puis depuis 97, on a encore 1 million de fonctionnaires en plus. Mais ils sont où, ces gens-là ?
Ouais.
Ils ne travaillent même pas 35 heures, les trois quarts. Ils sont toujours en un petit arrêt de maladie, ou alors ils sont toujours en grève, ou alors ils sont toujours... C'est un dysfonctionnement total de la fonction publique. Il faudrait faire l'inventaire des gens qui travaillent et des gens qui ne travaillent pas. Parce que là-dedans, il y a un gouffre. Vous pensez bien qu'ils vont être là pour la retraite à 60 ans. On va les voir dans la rue avec M. Martinez, l'encourageur, M. Martinez, tout ça.
Alors François, vous utilisez Internet ou pas, vous ?
Non, pas du tout, mais on les a plus devant nous. On les a plus devant nous. Vous allez à la poste, il n'y a plus personne. Mais dans tout ce qui est en service public, c'est un désastre. Ils ne travaillent même pas 30 heures, les trois quarts. Vous n'avez qu'à regarder à la mairie de Paris. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les enquêtes comme vous venez de faire qui le disent. Ils ne travaillent même pas 35 heures. Il faut remettre le pays aux 40 heures, il faut mettre la retraite à 67 ans, il faut remettre ces gens-là au travail. Ils nous coûtent 120 milliards de plus que l'Allemagne. L'Allemagne a une fonction publique qui coûte 120 milliards de moins que nous et avec 20 millions d'habitants en plus. Vous vous rendez compte ? Mais quand est-ce qu'on va taper sur la table pour remettre toute cette chose-là au travail ?
Remettre des fonctionnaires derrière les téléphones. Effectivement, c'est une solution. C'est la solution que nous propose François qui nous appelle de Deauville. Merci Lionel Mauguin, journaliste à 60 millions de consommateurs. Voilà, je voulais qu'on fasse ce petit clin d'œil à votre étude qui parle à tout le monde. 12h55, dans un instant c'est La France bouge avec Elisabeth Assayag. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Romain.
Et vous
ça
êtes
va
en... Mais oui, ça va, vous n'êtes pas dans le studio, vous êtes
Mais
à Nantes
non,
aujourd'hui.
Non, je ne suis pas à côté de vous aujourd'hui, je suis sur l'île de Nantes, c'est le quartier de la création. Pourquoi ? Parce que je suis en direct de l'école de design de Nantes. On va parler des métiers de demain dans La France bouge.
Eh bien, joli programme.
Oui, c'est un bon programme.
Bonne émission nantaise, donc, Elisabeth.
Merci, Romain. On vous retrouve demain à midi pour Europe Midi.
À demain.